Bienvenue dans J'ai pas compris, le podcast qui parle de trucs qu'on n'a pas vraiment compris avec des gens qui les ont quand même plus compris que nous. Que moi en tout cas.
Non. De quoi ? C'est pas très très clair.
Fais répéter l'action.
Pardon. Ah oui, d'accord.
Non, j'ai pas compris.
Alors aujourd'hui, j'ai pas compris le SEO. Déjà, qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? Eh bien, ça veut dire Search Engine Optimization. Allez, super épisode, j'ai compris le SEO, merci beaucoup, au revoir. Mais non, l'humour. Je vais évidemment poser plein de questions à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup trop en SEO, à savoir Marc, consultant SEO. Bonjour Marc.
Bonjour Alouane.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les ultra noobs, et il n'y a pas de jugement, hein, je vous rappelle que le principe du podcast c'est quand même que je comprends rien de base, j'ai évidemment d'autres qualités, hein, mais là n'est pas le sujet. Donc pour celles et ceux qui ignorent encore tout, le SEO, on peut aussi appeler ça du référencement naturel. Ça permet, quand on a un site internet, de ressortir de manière organique dans les moteurs de recherche. Organique parce que c'est pas sponsorisé. Ça c'est du SEA, Search Engine Advertising. Waouh, comment on apprend trop des trucs déjà. C'est dingue ce podcast. Et ressortir dans les premiers résultats quand on a un site, eh ben c'est chouette. Parce que même si vous avez le meilleur site du monde, s'il est à la page 3 des résultats de Google, bah personne ne le verra. D'où l'importance des mots-clés, des choses qu'on va écrire dans sa description, tout ça, tout ça. Enfin, je présume, hein, Marc va me dire. Et parfois, qu'un site ressorte, c'est pas chouette non plus. D'ailleurs, moi, petite confidence, une fois de temps en temps, je tape mon nom dans Google et je vais voir ce qui ressort. Et après, je clique pas sur les liens qui m'arrangent pas. Genre par exemple un vieux Skyblog, enfin, ça, je dis rien. Pour éviter que ça ressorte. Parce que j'ai l'impression que si je clique dessus, eh ben Google, il va se dire « Ah, il semblerait que la recherche avec les mots-clés « Nolwenn de la Pintière » fasse ressortir ce site internet nommé Skyblog. Je ferais bien de le remonter dans les résultats de recherche pour que tout le monde le voit. » Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, Marc, que je fasse ça? Ou en vrai, ça n'a rien à voir avec le SEO?
Ça ne fonctionne pas comme ça, et malheureusement. Le SEO, ça passe par plein de techniques de référencement, soit du technique, du sémantique ou de la popularité. Cliquer sur un lien pour le faire remonter dans les résultats de recherche, ça ne fonctionne pas. Sinon, les entreprises prendraient beaucoup d'employés pour les faire cliquer à longueur de journée.
J'avoue. Alors, comment ça marche du coup ?
Comment ça marche ? Donc déjà, la première chose en SEO qui est importante, c'est la capacité du site à être visible, donc à être explorable. Quand on fait du SEO, ce à quoi on s'intéresse, c'est aux robots d'exploration, donc Google Bots notamment. Et l'objectif, c'est que ce petit Google Bot, ce petit robot, puisse se rendre sur le site, visiter les pages. Donc la première étape, c'est déjà ça. Ensuite, c'est de remonter sur des thématiques spécifiques. Donc il va falloir écrire, tu en parlais juste avant avec les mots-clés, sur des sujets spécifiques et écrire correctement, de façon à ce que ça réponde aux recherches des utilisateurs. Et enfin, le troisième grand pilier du SEO, qui est la popularité, ça passe par ce qu'on appelle des backlinks, donc du maillage interne.
Oh wow, ça devient compliqué. Merci, au revoir. Non, vas-y, alors, le maillage, ouais, et c'est quoi exactement ?
Le maillage, c'est les liens qui relient les pages entre elles, comme sur les réseaux sociaux, où un post va être très relayé, très partagé. Eh bien, sur les moteurs de recherche, un site, une page qui est très relayée, très partagée sur d'autres pages, elle devient plus populaire et donc plus visible sur les moteurs.
C'est quoi tes conseils alors pour qu'un site ressorte ? Enfin, écrire, mais par rapport à quoi ? Tu disais bien écrire par rapport à ce que les utilisateurs recherchent. Ça veut dire que le petit robot, il peut nous aider ? Le Googlebot, il nous aide quand on écrit ou il fait juste une analyse existante du site ?
Alors, le robot, il récompense un travail de contenu qualitatif. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord savoir ce à quoi pensent les gens. Quand on fait du SEO, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir les intentions de recherche des utilisateurs. Écrire des pages qui y répondent ou des contenus, utiliser les mots-clés qui sont tapés afin que Google crée un match en fait, entre cette page et la recherche de l'utilisateur.
Par exemple, faire un site qui vend des oiseaux en papier, comment est-ce que je peux savoir c'est quoi les mots-clés qui vont m'amener à faire ressortir mon site par rapport à la concurrence, tu vois ?
Ouais, alors en fait, par rapport à ça, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour récupérer les mots-clés. Il y a des gros acteurs du marché, SEMrush notamment, qui nous permet de récupérer les recherches des utilisateurs. Il y a ce à quoi il faut s'intéresser, c'est aussi à la concurrence, parce que bien sûr il y a des requêtes très concurrentielles sur lesquelles il est très difficile de remonter. C'est là qu'on va utiliser peut-être plus le SEA dont tu parlais avant.
Ok, donc là c'est je paye pour être en lien sponsorisé et du coup pour dépasser la concurrence et être mise en avant dans les premiers résultats. C'est ça quand on voit, c'est quand on tape sur Google et qu'on voit que c'est les premiers résultats où c'est écrit sponsorisé en dessous, ça c'est du SEA.
C'est ça. La grosse différence entre le SEA et le SEO, c'est que le SEA, c'est instantané, mais tu dois payer à chaque fois. Les sites qui utilisent le SEA payent au clic. Alors que le SEO, c'est quelque chose de durable. Alors, ça va prendre plus de temps, mais c'est assez difficile de déloger un site en SEO. Okay. Donc, c'est plus simple. Enfin, c'est instantané de remonter en SEO.
Ok, donc tu veux dire que si moi je fais un nouveau site, ça va être hyper compliqué, alors qu'il y a déjà des gens qui sont installés en SEO depuis longtemps, de remonter et de les dépasser par rapport aux résultats de recherche, quoi.
C'est assez difficile au début, donc c'est un peu un travail
de
longue haleine.
Ouais.
Il faut compter plusieurs mois avant d'obtenir des résultats en SEO,
Ok.
alors qu'en SIA, ça
Oui,
prend
en
10
SEA, c'est
minutes.
direct. Et il y a une grosse différence de prix, du coup, j'imagine que le SEA, c'est pas donné non plus à tout le monde, ça veut dire que ça doit coûter cher, non?
Eh bien, au clic, ça peut coûter entre 1, 2, 3, certains 3 euros, certaines requêtes, ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut.
Donc ça veut dire que plus les gens cliquent et plus je paye.
Ah bah, si tu veux impacter un concurrent, tu cliques sur ces liens sponsorisés.
Ah oui, d'accord. Tu
Il va
cliques. Ouais.
payer Google à chaque fois que tu cliques.
Oui, c'est ça, parce que du coup, Google se fait une marge là-dessus. Donc on paye Google aussi à chaque fois qu'on clique sur un lien sponsorisé.
Tout à fait. C'est
Ok.
Google qu'on paye.
C'est Google qu'on paye in fine.
Le site en question va payer Google.
Et ça, enfin, du coup, tu dis que ça prend plusieurs mois en SEO à faire. Donc, comment est-ce que vous voyez déjà les premiers impacts? C'est quoi? C'est le résultat? C'est encore le petit robot qui vous aide à vous dire que ça a bien marché? C'est quoi les premiers impacts qu'on peut voir?
Alors, ce qu'on va remarquer, c'est déjà que le site va réussir à remonter sur des mots-clés de ces thématiques.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps en fonction de la complexité de la thématique. Et ensuite, on va regarder les taux de conversion. Donc, on a des outils. Google fournit déjà des outils
Taux de
pour regarder
conversion, c'est quoi?
taux de conversion. Donc, nous, le taux de conversion organique, c'est la part des gens qui voient le résultat dans le moteur de recherche et
Ouais.
qui, in fine, vont cliquer.
D'accord. Ah ok, donc vous savez qu'il y a des gens qui ont vu mais qui n'ont pas forcément cliqué.
Tout à fait.
Ok, d'accord. Et du coup, des bons résultats SEO, c'est quoi alors? Comment est-ce qu'on sait au bout de quelques mois que toi tu peux dire à ton client, bah regardez, c'est super, parce qu'en fait, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que tu montres?
Donc, ce qu'on regarde, c'est les positions organiques. Donc, comment vous remontez sur les mots-clés qui vous intéressent.
Ouais.
Parce que c'est ça ce qui compte, hein. Quand on cherche à vendre des produits, quand on cherche à être visible, référent sur une thématique, l'intérêt, c'est d'être dans les premiers résultats. Donc, top 1, top 2, top 3, éventuellement jusqu'à top 10. L'intérêt, c'est qu'au-delà, bah, on n'est pas visible. Donc, à quoi bon faire un contenu? C'est là qu'il va falloir faire du retravail sur les conversions. Et ça se traduit par souvent des bonnes conversions. Ça peut monter à 10, 15, 20%. Ce qui est beaucoup, vu qu'il y a quand même 10 résultats de recherche en compétition
Ouais.
pour un mot-clé.
Et est-ce que parfois, quand on va dire à un client que là, du coup, on passe en SEA, c'est comme un aveu de faiblesse ou parce qu'on n'a pas forcément réussi en SEO à tout faire remonter les recherches,
En
enfin les
fait,
résultats?
les stratégies SEO et SIA sont assez souvent complémentaires parce qu'il y a certaines requêtes sur lesquelles de toute façon c'est encombré. Il y a plein de sites qui vont remonter en SIA parce que c'est des intentions de recherche qui sont dites commerciales, transactionnelles, sur lesquelles il va y avoir un achat presque juste après.
Ok.
Donc c'est là, remonter, ça devient très compliqué parce que tous les sites concurrents vont acheter le mot-clé. Donc même si on a le résultat naturel, en réalité, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont cliquer sur le premier lien qu'ils vont voir.
Ouais.
D'où
Sans même se rendre compte parfois que c'est sponsorisé ou quoi, d'ailleurs, peut-être, je sais pas. Mais
parfois, ils ne se rendent
ouais.
absolument pas compte.
Ouais. Et il y a des tendances, du coup, enfin, dans le SEO ou dans le SEA, enfin là, plutôt SEO, du coup, il y a des tendances en ce moment. Est-ce qu'il y a des modes dans le SEO?
Alors, le SEO suit les modes du changement de l'algorithme, si on veut. L'algorithme, il change un peu tous les jours, mais il y a des grosses mises à jour.
L'algorithme, du coup, c'est lié à Google?
C'est ça, c'est l'algorithme
Ouais.
de Google. Alors, Google n'est pas le seul moteur de recherche, hein. Il y
Ouais.
a
Mais c'est le plus utilisé dans le monde, j'imagine.
plus de 90%, donc
Ouais.
c'est surtout celui-là sur lequel on travaille. Et les grosses modes du SEO, je dirais, alors ça dépend à l'époque, il y a 5-6 ans, c'était un peu plus le Far West. Il y avait beaucoup de techniques, notamment du Black Hat qui était utilisé pour
Waouh,
remonter.
c'est quoi ça?
Le Black Hat, ce sont l'ensemble des techniques qui sont comme des hacks, en fait, pour remonter sur les résultats de recherche. Vu qu'on connaît ou qu'on commence vraiment à bien comprendre le fonctionnement de l'algorithme, on peut travailler en conséquence pour faire remonter les pages dans les résultats. Donc, il y a ce que préconise Google, qui est le White Hat, et qu'on peut mettre en place et que nous, on met en place chez Razorfish.
Ok.
Et il y a ce que peuvent faire des sites un peu moins recommandables. Donc, des stratégies, disons, pour gagner de la visibilité sans que ce soit forcément légitime.
Ça se traduit comment concrètement?
Alors, des stratégies de Black Hat, il y en a beaucoup. Les plus connues, c'est peut-être le cloaking. Donc,
Le
afficher
cloaking?
le cloaking, par
Ok.
exemple, afficher une page pour le serveur, donc pour le robot d'exploration, et afficher une autre page pour les utilisateurs. Donc, on fournit tous les mots-clés au robot et on fournit la page qu'on veut à l'utilisateur. Il y a des stratégies pour mettre des mots-clés sur les pages, mais ce n'est pas du tout préconisé et ce n'est pas
Ouais,
du tout ce qu'il faut
c'est
faire.
vraiment de la triche, ça, du coup.
C'est de la triche et jusqu'à il y a quelques années, c'était encore possible possible de tricher de cette manière. Et les algorithmes, évidemment, les ingénieurs chez Google sont au courant et ils ont travaillé pour détecter tous ces hacks et blacklister les sites, sachant qu'être blacklisté sur Google, c'est un assez mauvais signe.
Ouais.
Ça peut prendre beaucoup de temps avant de remonter à des performances avant le blacklisting.
Ok. Et du coup, ça, donc le black hat, donc à éviter. Il y a d'autres comme ça, un peu dans le. J'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir une porte mystérieuse du SEO et de tout ce que ça cache. Tu parlais qu'il n'y a pas de tendance, qu'il faut juste suivre l'algorithme. Mais comment est-ce que vous êtes au courant que cet algorithme il change du coup ?
Alors, ce qu'on fait souvent, alors déjà, il faut faire pas mal de veille. Il y a pas mal de personnes dans le monde du SEO qui font des tests. Et nous, on regarde assez souvent voir les évolutions. De toute façon, on a des résultats quasiment en permanence, vu que ça bouge tout le temps. Les basiques sont quand même ce qui marche le mieux. En SEO, les basiques, c'est la bonne utilisation des mots-clés aux bons endroits, sur les bonnes balises, l'utilisation du maillage.
Ce que tu disais tout à l'heure, donc connecter des sites, enfin des pages entre elles, quoi.
Alors, il y a le maillage interne, donc c'est au sein du site, c'est l'arborescence, par exemple. Et le maillage externe, c'est recevoir des liens de la part d'autres sites pour être référencé. C'est comme un vote pour ton site.
D'accord.
Mais,
et ça marche comment ? Je ne comprends pas trop le maillage externe.
Il y a des stratégies, disons, d'acquisition de liens de façon un peu sournoise.
Ouais.
C'est encore une fois du black hat, enfin du grey hat, on peut dire. Ouais. Des stratégies d'acquisition. De toute façon, Google ne préconise pas l'utilisation de hacks pour le SEO, même si en fine, ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui se destinent à proposer de la vente de liens.
Ok.
Donc,
Et donc ça fait partie du black hat ?
Ça fait pas partie du black hat, mais disons, Google sait que ça existe.
D'accord.
Ils y peuvent pas grand-chose de toute façon, et ça fonctionne. Après, on s'informe en permanence. J'ai entendu encore ce matin que les liens vont avoir un petit peu moins de place dans la pondération des scores d'autorité des sites. Donc peut-être que Google change de stratégie sur tout ça. Mais disons que jusqu'à maintenant, c'est ce qui fonctionne le mieux.
Quand tu dis score d'autorité des sites, c'est que les sites ont un vrai score ou c'est une manière de parler ?
Non, les sites ont un vrai score. Aujourd'hui, on ne le voit pas.
Ouais.
Mais ça s'appelle le PageRank. Donc
okay.
En fait, c'est le score qu'attribue Google à un site. Plus ta note est haute, plus tu as de chances de bien remonter. Et les sites qui ont des notes assez basses vont peiner à gravir les premières marches des résultats de recherche.
Et ça, tu le vois. Toi, tu le vois quand tu bosses en SEO, tu vois ta note ? Ou il n'y a que Google qui sait la note ?
Google sait la note. Il y a beaucoup d'outils qui estiment la note sur la base de leur propre algorithme.
Ouais.
C'est globalement assez proche.
Entre, tu veux dire, la vraie note et la note estimée ?
Les sites qui comportent des notes élevées, généralement, sont assez bien positionnés.
Okay.
Donc, ça traduit en réalité... disons que la note reflète assez bien la réalité.
On parlait des mots-clés et tout ça, mais il y a quand même... notamment moi, par exemple, j'utilise de plus en plus ChatGPT, tu vois, pour faire des recherches et tout, et plus forcément Google, par exemple. Et je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast « J'ai pas compris ChatGPT ». Mais est-ce que ça influence aussi la manière dont vous bossez et tout ? Puisque finalement, peut-être que dans l'avenir, on fera plus des recherches par mots-clés, mais on fera des recherches comme si on parlait à un assistant virtuel, quoi.
Ouais. C'est vrai, ça évolue assez vite. De toute façon, les besoins des utilisateurs, ils ont évolué. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens font des recherches beaucoup plus longues. On parle de longues traînes en SEO, donc des mots-clés plus longs, donc des recherches plus qualifiées, des intentions de recherche toujours plus faciles à lire, vu que les mots sont plus longs. Aujourd'hui, le SEO, c'est l'ère de l'intention de recherche, je dirais. On cherche à comprendre ce à quoi pensent les gens quand ils tapent le mot-clé, alors qu'avant, peut-être... Si tu cherchais une marque de chaussures, tu allais taper Nike. Et demain, tu vas peut-être aller taper qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter entre Nike, Adidas et je ne sais trop quoi.
J'ai l'impression que oui, on a plus tendance même à faire des phrases. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Avant, tu aurais tapé genre taille plus éléphant, si tu veux connaître la taille d'un éléphant. Qu'aujourd'hui, on dirait genre quelle est la taille d'un éléphant. Enfin, tu vois, on pose vraiment les questions. Je dis c'est plutôt moi parce qu'en effet, j'ai plus l'usage ChatGPT et tout maintenant. Mais je me demandais si du coup, ça remettait aussi en cause des algorithmes quand il y a des petits mots comme ça qui viennent s'immiscer. Alors que moi, je me souviens, au collège, quand on nous apprenait, quand on avait créé notre adresse mail @laposte.net et qu'on nous avait appris à chercher sur Google, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Tu vois, on nous disait vraiment, c'est un mot-clé. Entre chaque mot-clé, on met le plus. Ouais, c'était à l'ancienne. Mais tu vois, tout ça, ça a vachement changé du coup. Donc, c'est quoi, en effet, l'impact pour vous le fait que viennent s'immiscer dedans des questions entières, comme tu disais, les longues traînes, c'est ça que tu disais ?
La longue traîne en SEO.
Ouais.
Ce qui se passe, c'est que ça va laisser de la place à d'autres acteurs, je pense, ce genre de mot-clé, vu que y a une infinité de questions qui peuvent être posées autour d'un sujet. Donc, ça veut dire une infinité de contenu pour y répondre, donc une infinité d'acteurs pour se positionner. Ça veut dire aussi plus de concurrence, parce que plus de sites.
Et des métiers qui changent aussi ? Ça veut dire quoi ? Toi, est-ce que ton métier il va changer ou...
Bah nous, de notre côté, ça complexifie un peu le travail. Parce que si avant, pour écrire une page qui allait remonter sur 1, 10, 20, 30 mots-clés, on allait partir sur quelques mots-clés. Aujourd'hui, pour remonter sur des mots-clés extrêmement longs, eh bien, il va falloir écrire des contenus qui y répondent exactement. Donc ça veut dire toujours être plus précis dans la façon de répondre avec le contenu.
Est-ce que toi, ça fait partie de ton métier d'écrire aussi les choses sur le site ou toi, tu fais juste une recommandation des mots qui doivent être présents sur le site ?
Il y a de nombreux professionnels en SEO qui écrivent. Alors moi, ce n'est pas du tout mon travail.
Donc des rédacteurs spécialisés, des rédactrices spécialisées SEO ?
Exactement.
Okay.
C'est des rédacteurs, des rédactrices qui, eux, écrivent des contenus en utilisant les mots-clés et en les plaçant dans les balises adéquates pour que ça remonte dans les résultats de recherche. Moi, mon travail, c'est un travail surtout d'analyse, donc d'analyste et de recommandation. Parce que ça passe pas que par les mots-clés, hein, le SEO, sur l'ensemble des leviers qui sont la technique, notamment.
C'est quoi la technique ?
Eh bien, la technique, c'est tout ce qui concerne l'exploration. Donc, pour qu'un site soit visible, il faut que le robot puisse y accéder, à des pages. Si tu as une page 404 sur ton site, par exemple, ça va donner un mauvais indicateur. Ça peut faire baisser ta note dont on parlait tout à l'heure.
Okay.
Donc, il va falloir corriger ça. Il faut corriger les problèmes de maillage, de lien entre les pages, les problèmes d'arborescence. Enfin, des sujets, il y en a autant qu'il y a de sujets en développement de site web, en fait.
Oui, c'est ça. Mais toi, ton rôle, en tout cas, c'est pas de réparer, mais c'est de dire attention, là, il y a une page 404, c'est pas normal. Et derrière, c'est justement des devs qui vont réparer, entre guillemets, c'est ça ?
C'est ça. On collabore avec beaucoup de développeurs, avec beaucoup du UX sur des sujets comme ça, parce que nous, on leur fournit des recommandations et après, il y a des choix, des arbitrages, disons, à réaliser pour savoir ce qui est préférable.
En fait, oui, c'est vrai, avec quel métier, en fait, t'es le plus tu travailles aussi, par exemple, avec des planeurs stratégiques, amont du site et tout. Enfin, avec quel métier tu te coordonnes, entre guillemets, pour tout le process SEO, quoi ? En amont d'un site, pendant le site et après. En fait, il y a du taf vraiment tout le temps, parce qu'il y a... Oui, ma question est sans fin. Il y a en amont... pour savoir en effet ce que les gens recherchent, peut-être que c'est lié aussi au planning. Du coup, on va faire par étapes, avant, pendant et après.
Okay.
Donc, avant le site, alors ?
Alors, avant le site, effectivement, ça passe par le planning aussi. Souvent, ce qu'on essaye de détecter, c'est les signaux forts, les signaux faibles, les tendances de recherche, en fait, hein,
ouais.
sur des thématiques. Ça va nous permettre d'angler notre stratégie SEO, la bonne utilisation des bons mots-clés pour les bonnes pages. Par la suite, quand on créera la partie contenu.
Ouais.
Pour ça, nous, ce qu'on fait à l'agence, c'est qu'on utilise les cadrans. Donc, c'est une méthodologie qui nous permet de détecter les signaux de recherche forts et faibles, les bonnes thématiques.
Et les cadrans, c'est quoi ? C'est une appellation ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Les cadrans, c'est un script sur Python qu'on a développé dans l'équipe SEO pour bien détecter les sujets les plus recherchés.
Que vous avez développé ?
Oui.
Ah, waouh ! T'es...
Et donc, on utilise les cadrans dans ce cadre-là. Donc là, on va aussi travailler pas mal avec le planning strat.
Ouais.
Souvent, ils ont des idées et on va regarder avec eux si ça se confirme ou si il y a peut-être autre chose à laquelle ils n'avaient pas pensé.
Ok, trop bien. Donc ça, c'est en amont.
Ouais.
Et il y a d'autres gens avec qui vous collaborez en amont.
Chef de projet, très
chef
souvent.
Chef de projet, ouais, forcément. Et après, pendant, du coup, UX aussi en amont pour...
Pour la création de l'arborescence, la constitution, ouais. Comment on va organiser les pages entre elles, comment on va créer les répertoires.
Ok. Parce que là aussi, les UX doivent quand même être au fait du SEO, quoi. Et vous, en SEO, être au fait un peu de comment ça marche l'UX, enfin, c'est très...
C'est des vases communicants.
Ça se répond un peu, quoi. Ouais.
Ouais, l'UX et le SEO, pour moi, sont interdépendants. Aujourd'hui, dans les moteurs de recherche, alors jusqu'à il y a quelques années, ce qui comptait vraiment, c'était l'autorité du site, la confiance qu'il inspirait. Depuis quelques temps, on passe aussi beaucoup par l'expérience. C'est un facteur de notation pour Google sur la performance des sites. Et du coup, nous, on s'adapte et on travaille beaucoup avec les UX pour ça.
Et c'est pour ça qu'avant, on parlait de SXO.
Ouais, alors il y a toujours un nouvel acronyme, mais effectivement, on a parlé de SXO parce qu'il y a une expérience dans la recherche entre ce que va chercher, par exemple, un utilisateur par l'interface moteur de recherche, quand il tombera sur le site sur quoi il va tomber, et du coup, le reste, c'est entre les mains des UX en règle générale.
Ok, trop bien. Et donc là, il y a UX, aussi UI, ou ça vraiment l'UI, toi, tu ne touches pas forcément du coup ?
Alors, on travaille avec des UI, mais c'est plus pour, disons, eux, ils font le design de certains composants, et nous, on utilise ces composants pour les rendre visibles. Donc, on va leur mettre souvent des données structurées, de la data pour rendre visibles ces composants.
Et si tous ces acronymes UX, UI ne vous parlent pas, je vous invite à écouter le podcast « J'ai pas compris l'UX ». Tu vois, je fais du maillage interne dans le podcast. T'as vu, j'ai bien compris. Hein. Okay. Et après, en revanche, vous êtes un peu... Si, avec les devs aussi, une fois que le site il est développé. D'ailleurs, il se fait en amont. Il y a du taf en amont et il y a du taf après, une fois que le site est sorti, pour toujours être à la page et... À la page, sans mauvais jeu de mots, mais à la bonne page de Google, quoi.
Exactement. Donc, la partie avec les devs, c'est un travail qui est un peu un travail de tous les jours parce qu'il y a toujours un problème qui va apparaître et du coup, ça va avoir une incidence sur les résultats de recherche. Notre rôle, c'est de corriger ça pour faire en sorte que le site soit visible. Et en fait, c'est pas parce qu'un site est déjà lancé qu'il a couvert tout le potentiel de trafic qu'il pouvait couvrir. Donc nous, assez souvent, on va nous poser des questions. Alors nous-mêmes, on va interroger les marques pour savoir ce qui les intéresse ou ce sur quoi ils voudraient remonter. Et s'il y a un potentiel de trafic, on va essayer de créer du contenu pour y répondre.
Ok. Et là, par exemple, j'ai tapé genre voiture dans Google et le premier truc qui ressort, c'est la centrale avec les petits mots en bleu en dessous. Là, ça, c'est aussi du maillage. Genre, ils ont écrit par exemple voiture occasion petit prix, fiche technique automobile, côte voiture gratuite. Ça, du coup, c'est lié à la recherche des gens, c'est ça?
Les petits liens en bleu sous le gros lien bleu. C'est alors en SEO, ça s'appelle les site links. Donc c'est une donnée structurée dont je parlais avant. Les données structurées, il y en a une bonne trentaine. C'est de la data qui est utilisée par le SEO pour modifier l'apparence des résultats de recherche pour ton site.
Ok, en fonction de ce que les gens tapent, du coup, ou pas?
Donc ça va avoir une influence sur le résultat de ce qu'ils auront tapé, mais c'est toi de ton côté en tant que site qui prend ce parti pris de mettre une donnée structurée.
Okay, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est écrit voiture occasion petit prix parce que c'est vraiment ce que les gens recherchent?
C'est parce que c'est ce qui est écrit sur le site.
C'est parce qu'il y a écrit ça sur le site. Mais en fait, s'il y a écrit ça sur le site, c'est parce que c'est les gens qui recherchent. Enfin bref,
exactement.
Qui se mord la queue, quoi. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aborder sur le SEO qu'on aurait oublié, mon cher Marc? J'ai l'impression qu'on a quand même fait pas mal le tour du sujet et même un peu du SEA, je veux dire. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs?
Dans les dernières tendances en SEO, Google nous parle beaucoup d'expérience. Ils ont lancé, on ne sait pas encore où est-ce qu'on en est. Tout se lance d'abord aux États-Unis, après ça arrive au fil de l'eau sur les marchés. Ouais. SGE, ils appellent ça, donc Generative Experience. Pour l'instant, on ne sait pas bien ce que ça vaut. Il est prévu que ce concept vienne modifier l'apparence des résultats de recherche et du coup, les pratiques et les usages des utilisateurs.
Mais on ne sait pas du tout encore ce que c'est.
On sait à quoi ça ressemble. Mais
ça ressemble à quoi?
Eh bien, Google utilise... Google et pas que, hein, ouais. Microsoft a fait pareil avec Copilot.
Ouais.
Google et consorts. On lançait du coup ce sujet du SGE, c'est apporter plus de réponses aux utilisateurs sur le moteur. Les gens auraient moins besoin
de cliquer
jusqu'au site pour avoir des résultats.
D'accord, comme ChatGPT finalement. Un peu
comme, comme des résultats qui sont auto-générés. Alors, le problème, c'est que Google se base de toute façon sur les contenus des sites pour afficher des résultats. Donc, ça pose aussi peut-être une question légale sur à qui appartient cette donnée, comment vous autorisez à la publier.
Et d'ailleurs, avant, dans les autres podcasts, hein, justement, on avait parlé des moteurs de recherche comme Google ou comme Microsoft qui ont créé d'autres moteurs liés avec l'intelligence artificielle. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, c'était un prénom d'ailleurs pour Google, je ne sais plus ce que c'est, mais bref.
Gemini.
Je ne sais plus, ouais. Et ça, donc, c'est très différent du moteur de recherche Google ou à un moment, ce sera lié et il n'y aura plus qu'un moteur de recherche?
Alors ça, j'en sais rien, mais...
Tu ne lis pas dans l'avenir.
En fait, aujourd'hui, une entreprise comme Google, elle fait 80% de son chiffre d'affaires sur le search. Donc, de toute façon, je ne les vois pas trop s'asseoir sur 300 milliards de dollars.
Le search, c'est-à-dire les liens sponsorisés, tu veux dire?
Les liens sponsorisés, ouais. Et donc leur algorithme.
Ouais.
Donc, en fait, je ne les vois pas trop s'asseoir sur 80% de son chiffre d'affaires.
J'imagine qu'ils vont trouver une solution pour que ça marche aussi demain, si les recherches changent, quoi.
Ce qu'ils vont sûrement faire, c'est qu'ils vont intégrer l'IA à la recherche.
Ouais.
Mais je les vois pas supprimer l'interface.
Ok, on se refera un petit épisode dans quelques années pour voir si ça a changé. En tout cas, merci beaucoup, Marc, d'avoir répondu à toutes mes questions. On peut dire que j'ai beaucoup mieux compris le SEO et même un peu le SEA. Prochain épisode, rien à voir, mais tout aussi sympathique, puisque ce sera « J'ai pas compris le gaming. Allez, bisous, au revoir et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si ça vous a plu et si ça vous avez compris des choses peut-être dans la vie parce que c'est chouette. Merci.
C'est pas très clair. Salut.
Pardon.
Ah oui, d'accord.